Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bienvenue à tous, c'est le retour sur votre radio du Carnet de Région, l'actualité en Languedoc-Roussillon, 7e saison, un magazine collaboratif entre radios associatives. Cette semaine, Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault pour vous le présenter. Au sommaire, il sera question dans ce carnet de région de fractures numériques au sein du département de la Lozère, des Lozériens qui ne se laissent pas faire face aux géants du numérique. Reportage à Mende. Nous irons dans les Cévennes gardoises, à Saint-Hippolyte-du-Fort, plus précisément à la rencontre de Sophie André, une architecte impliquée dans un projet d'habitat participatif. Un nouveau dispositif pour faciliter le logement étudiant à Montpellier, initié par le CROUS. Ce dispositif s'appelle La clé, comprenait la caution locative étudiante. Explication dans un instant. Un bilan sur les estivales à Montpellier. Nous parlerons donc de vin avec Jean-Philippe Granier, œnologue et directeur des Coteaux du Languedoc AOC. Et puis nous sommes en pleine période de vendange. Nous évoquerons les prévisions sur la qualité et la quantité en Languedoc. Et puis en fin de carnet de région, nous parlerons de la réouverture d'un cinéma dans l'Hérault à Bédarieux. Mais tout d'abord, dans le département de l'Aude, un lycéen sur deux sous-estime les risques sur la route. Tel est le résultat d'une enquête réalisée par la prévention routière de l'Aude au lycée Charlemagne de Carcassonne. Éric Boyer, d'RCF Pays d'Aude.
6432 élèves ont été évalués en tout. La moitié des lycéens interrogés et ayant le permis reconnaissent, par exemple, répondre au téléphone au volant. Gisèle Desramon, directrice de la prévention routière dans l'Aude.
On a travailler sur le téléphone et les dangers que ça représente, bien sûr, sur la tâche de conduite.
Ils le réalisent, ça, ou pas, ou c'est intégré dans leur mode de vie et finalement, ils ne s'en rendent pas compte?
Alors là, il faut savoir qu'il y a le déni complet, hein, c'est une sous-estimation du risque, voire vraiment un déni. Il faut savoir qu'ils sont dans un monde qui est ultra connecté, le téléphone fait partie intégrante de leur vie et, ma foi, quand ils sont soit à scooter, soit en voiture, le téléphone, il n'est jamais sur pause, hein, et il faut tout le temps répondre. Là, on a mis en place un procédé très simple, un principe qui demande peu de moyens, qui n'est pas violent, qui est faisable par tous.
J'allais vous dire quel est votre rôle là-dedans, c'est pas facile.
Voilà, alors on a créé un principe. C'est un élève qui est au tableau, il recopie un texte, hein, et pendant ce temps, son téléphone sonne. Et à l'extérieur de la salle de cours, il y a un élève qui lui dicte des opérations mentales. 5 plus 3 égale. Donc l'élève doit en même temps recopier le texte et en même temps répondre au calcul 5 plus 3 égale 8, etc. Et donc là, on s'aperçoit que le cerveau est en multitâche. Il est très vite en rupture. Et ces moments de rupture qu'on analyse ensuite avec les élèves, c'est une simulation de conduite. C'est-à-dire que quand on conduit, on ne peut pas être dans une conversation, c'est impossible. Le cerveau, il va traiter les informations et comme il y a trop d'informations, il va traiter une information et ça va être malheureusement le téléphone, la conversation. Donc tout ce qui se passe à l'extérieur, l'environnement, etc., ils sont déconnectés.
Vous les aidez à prendre conscience de ça et ça peut, vous l'espérez, faire changer les comportements, cette prise de conscience.
Tout à fait. Sur 440 élèves, on a eu 397 élèves qui ont dit que c'était vraiment surprenant et que ça leur avait fait prendre conscience que c'était très dangereux. Déjà pour l'élève qui est en situation, quand on le voit à la fin du test, il est en sueur, il est en panique. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qu'ils vivent à l'intérieur d'eux et qui les fait prendre conscience et qu'on espère ensuite, quand ils seront en situation de conduite, hein, ils se rappelleront de cette mise en situation.
C'était un sujet d'Éric Boyer, d'RCF Pays d'Aude.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Les territoires ruraux, parfois délaissés quand il s'agit de développement numérique, même si des efforts sont réalisés au sein d'un même département, les disparités sont parfois criantes. On peut alors parler de fracture numérique. Et c'est le cas en Lozère, où la semaine dernière, la 4G était inaugurée en grande pompe à Mende, pendant que devant la boutique, des habitants des Cévennes manifestaient pour juste pouvoir téléphoner. Ludovic Terrol de 48FM s'est rendu sur place.
Écoutez, merci. C'est pas la première fois qu'on vient.
Il n'y a pas de souci, monsieur. Je vous dis que je suis prêt à discuter avec vous. Alors maintenant, si vous voulez, laissez-nous. Je m'excuse, vous êtes dans des locaux de
rang.
Vous voudrez terminer quand même.
C'est une inauguration houleuse qui s'est tenue la semaine dernière à la boutique Orange de Mende. Alors qu'était inaugurée la 4G dans la ville-préfecture de la Lozère, des habitants cévenols étaient présents pour exprimer leur mécontentement. En cause des coupures intempestives sur les lignes des téléphones fixes.
Oh, on n'est absolument pas contre la 4G, au contraire, on salue même les
Claude Face, ancien maire et ancien conseiller général du Pompidou.
Simplement, ce que nous demandons, nous, tout simplement, c'est de pouvoir téléphoner avec notre téléphone normal. Et actuellement, on a des coupures à tout moment, on a des coupures qui durent pendant des mois. Chez moi, par exemple, nous attendons le téléphone depuis plus d'un mois, bientôt un mois et demi. Ces problèmes sont récurrents depuis 3 ou 4 ans, vraiment. Ça se produit très très fréquemment.
Et pendant ce temps, Salomon Botton, délégué régional d'Orange, a loué la qualité de la 4G.
C'est un confort d'utilisation. D'abord la rapidité, quand vous consultez un petit film, une vidéo, quand vous voulez consulter vos mails, la synchronisation, enfin, il y a un débit. Cette rapidité de débit permet l'échange de data de plus en plus importante, de volumes de plus en plus importants. Or, on sait que ces volumes sont multipliés par deux quasiment tous les 3-4 ans.
À la décharge d'Orange, c'est tout de même le seul opérateur qui vient en Cévennes lozérienne. Les coupures seraient dues à la vétusté du câble qui ne serait pas remplacé mais juste réparé au gré des dysfonctionnements. D'après Simon Plat, le secrétaire de l'Union régionale CGT, Fédération des activités postales et télécommunications, c'est un ensemble de décisions politiques qui nous a amenés là.
Il y a eu une libéralisation du secteur qui a été imposée par des directives européennes. Donc à partir de là, l'entreprise Orange, en tant que telle, elle s'est adaptée. À chaque fois, il y a des problèmes de mise en concurrence. L'autorité de réglementation dit attention au prix, il faut que vous soyez concurrentiel. Donc à un moment donné, la problématique pour toutes les entreprises du secteur, que ce soit Orange, Bouygues, SFR, etc., tout c'est d'avoir des marges conséquentes pour leurs actionnaires. Et le secteur des télécommunications aujourd'hui, c'est un de ceux qui dégage le plus de marge. Nous, ce qu'on pense, c'est que sur ces marges, il devrait y avoir une partie de l'argent qui devrait aider à la mise en place d'un vrai service public. Et c'est pour ça qu'on réclame une réappropriation publique des télécommunications.
Et pour concilier territoires ruraux et numériques, il y a tout de même de beaux projets. La Maison de l'Emploi de la Lozère vient d'être lauréate d'un concours de création de nouvelles écoles numériques à la campagne. Sur une dizaine de dossiers de territoires ruraux provenant de l'ensemble de la France, la Maison de l'Emploi vient d'obtenir la création d'une école de codeurs numériques. Il manquerait actuellement 36 000 développeurs informatiques en France. Un projet qui montre, d'après Frédéric Dumortier, le directeur de la Maison de l'Emploi, que numérique et ruralité ne sont pas contradictoires.
On a toujours l'impression que numérique ne résonne pas avec ruralité, or c'est bien le contraire. Non seulement on a des capacités d'accueil qui sont meilleures que dans les territoires urbains, et puis avec l'accès au très haut débit sur une bonne partie de notre territoire, on est tout aussi efficace pour pouvoir accueillir ce genre de projet et le mettre en lien avec les entreprises qui travaillent aujourd'hui autour du numérique, mais j'ai envie de dire aussi au sein de toutes les entreprises et collectivités qui aujourd'hui ne peuvent pas se passer du numérique puisque c'est présent dans toutes nos pratique. Effectivement, les codeurs sont des gens qui demain sont les couteaux suisses du numérique qu'on va retrouver dans toutes les entreprises et qui vont être capables de développer et d'aller plus loin que ce dont on est aujourd'hui capable de faire et dont on a réellement besoin dans toutes les entreprises.
C'était un sujet de Ludovic Terrol de 48FM à Mende. La rentrée, lorsqu'on est étudiant, c'est souvent compliqué, encore plus lorsque l'on cherche un appartement et que l'on manque de budget pour la caution. Cette année, pour la première fois, le CROUS met en place un dispositif qui permet aux étudiants de bénéficier d'une caution solidaire de l'État. Ce dispositif s'appelle la clé, comprenez la caution locative étudiante. Boris Calabrin, jeune stagiaire à Radio Aviva et lui-même étudiant, est allé tenter d'en savoir un peu plus auprès de Philippe Titeux, responsable de la vie étudiante au CROUS de Montpellier.
Moi, le premier, je serai un bailleur, je prends de suite cette caution locative, parce que c'est quand même une garantie de l'État. L'État s'engage aux côtés de l'étudiant. Hein, alors, le système, il est simple, hein, c'est un fonds mutualiste, en réalité. Donc, il a été abondé dans un premier temps par l'État. Ensuite, il sera abondé par des partenaires divers et variés, tels que éventuellement les régions. Et ensuite, il y a une cotisation que l'étudiant va verser, qui représente 1,5% du coût annuel de son loyer. Ceci étant fait, donc ce fonds mutualiste, donc qui représente la garantie de l'État, va se substituer à l'étudiant en cas de défaut de paiement. Cette garantie s'étend jusqu'à le remboursement de 10 mensualités de loyer sur 3 ans. C'est-à-dire que le dispositif est prévu pour être étendu et renouvelé 3 années de suite. Enfin, 2 années en plus de l'année qui a été accordée. Voilà. Et sur le temps de cette garantie, l'État pourra se porter caution jusqu'à 10 loyers. Donc c'est un système qui est encore assez méconnu, puisque nous en sommes aux prémices, mais je pense qu'il va se développer de façon exponentielle, parce que c'est un très bon système.
La clé, la caution locative étudiante est donc mise en place. Aux étudiants à présent d'en bénéficier. Philippe Titeux, à l'instant du Crous de Montpellier, répondait aux questions de Boris Calabrin, de Radio Aviva. À l'heure de la rentrée en ce mois de septembre, il est temps aussi de faire un bilan touristique et voire estival. L'occasion ici de faire un premier bilan sur les estivales de Montpellier. Ça se passe tous les vendredis soirs sur l'esplanade Charles de Gaulle, où des vignerons de toute la région viennent faire déguster leur vin. Jean-Philippe Granier, œnologue et directeur technique des coteaux du Languedoc AOC, joint au téléphone par Cédric Combé d'RCF Maguelone Hérault.
Écoutez, dans une très très bonne ambiance, c'est-à-dire que la nouvelle politique, je dirais municipale, de Philippe Sorel, c'est de défendre les estivales pour défendre les vignerons. Donc pour nous, c'est capital. C'est capital, Hélène Mandrou l'avait déjà fait, mais Philippe Sorel a amplifié un peu la défense du vigneron, la défense du terroir. Après, au niveau de la participation, on a eu beaucoup plus de vignerons qui ont participé. 165 vignerons, 40 vignerons par soirée, ils ont le droit de venir deux ou trois fois. Et la diversité des terroirs, c'était quelque chose de capital. Par contre, là, on a eu quand même une fréquentation un tout petit peu inférieure. Je dis un tout petit peu parce que c'est entre, j'ai pas fait mes comptes, mais entre 8% de moins, dû au, je pense, à la Coupe du Monde. Et dû au. On a eu quand même deux alertes orange à 18h le soir, qui ne sont pas confirmées, mais il a fallu que ça retenue du monde quand même. On a eu un été avec un climat un peu difficile.
Jean-Philippe Granier, le directeur des coteaux du Languedoc, à l'instant. Alors, lorsque l'on est fin août, début septembre, eh bien, pour les viticulteurs, c'est une période synonyme des vendanges. Les vendanges en Languedoc ont débuté il y a maintenant une quinzaine de jours, plus précoces que l'an dernier, avec une quantité moindre également comparée à l'an dernier, mais où la qualité devrait être au rendez-vous. La récolte 2014, vue par le président de la Chambre d'agriculture de l'Hérault, Jérôme Despé.
Nous avons une récolte qui est en forte donc diminution, hein, puisqu'on passe à être aux alentours de 4,5 millions d'hectos dans l'Hérault, moins de 12 millions au niveau du Languedoc-Roussillon, contre 13,4 donc l'année dernière. Alors c'est dû à d'abord un printemps qui a été très chaud, très sec, qui a amené des difficultés au moment de la fleur, hein. Des épisodes aussi de grêle qui ont eu lieu dans le Minervois particulièrement, dans le nord de Montpellier vers Mas de Londres, qui a fait aussi que ça a accentué cette diminution donc, de production.
En termes de qualité de ce futur vin ?
La qualité est bonne pour l'instant. On n'a pas d'incident climatique et sanitaire dans le vignoble. Les vendanges ont commencé il y a une dizaine de jours. La pluviométrie de cet été pouvait amener quelques inquiétudes, mais le vent est passé au nord. Le soleil est revenu, la chaleur, ce qui permet d'ailleurs d'avoir en qualité des éléments intéressants comme la maturité donc des raisins qui se fait beaucoup plus favorablement au début de la vendange.
Carnet de région,
Hérault. Aude, Gard,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gard,
Lozère, Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Intéressons-nous à présent à un projet d'habitat participatif, le projet de Croix Haute. C'est comme ça que l'appellent les Cigalois, les habitants de Saint-Hippolyte-du-Fort. Un projet né il y a 2 ans dans le quartier de Croix Haute, d'où son nom. À la base, un propriétaire d'une parcelle d'environ 9000 m² comprenant une maison ancienne de 600 m² et qui ne veut pas revendre à n'importe quel promoteur immobilier son bien. Monsieur Bordarier lance donc son appel. Quelques citoyens réagissent et décide de faire appel à la structure d'accompagnement de projets d'habitat participatif Toit de Choix. Aujourd'hui, ils sont déjà plus de 10 foyers impliqués dans le projet et ils partagent des valeurs de solidarité, de convivialité, de coopération au quotidien et bien sûr de respect de l'environnement. Sophie André est architecte de formation. Elle nous explique au micro de Rémi Goujon pour Radio Escapade où en est ce projet d'habitat participatif.
Actuellement, on est en train de finir d'élaborer le permis d'aménager qui est suivi par Tribeca, une équipe avec un architecte urbaniste, un architecte paysagiste et quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est réseau VRD, un bureau d'études. Donc ce permis d'aménager nous permet de définir plusieurs îlots constructibles, c'est-à-dire on a défini 6 îlots. Qui permettent en fait aussi de pouvoir faire des permis de construire séparés par îlots. Ces îlots, ils comprendront des petits collectifs de 2 niveaux à 3 niveaux. On cherche à faire des petits collectifs pour essayer de garder le maximum de jardins. On arrive à garder 3000 m² de jardin pour qui serait du jardin plutôt collectif. Et dans ces îlots, on peut comme ça avoir des modes de construction différents. Des modes d'habiter différents. S'il y en a qui veulent faire vraiment quelque chose de complètement partagé, ben, ils le feront. S'il y en a qui veulent se lancer dans l'autoconstruction, on va dire plutôt de l'autoconstruction aidée, ben, un îlot pourra être dédié à ça. Donc ça permet une diversité de modes de construction et aussi d'attente. C'est-à-dire qu'on pourra ne pas attendre que tout le monde est là pour démarrer le projet. Donc ça va se déposer en mairie, on espère, dans le mois de septembre. On a des bons contacts avec la commune hein, qui reçoit le projet au début avec hésitation. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est accompagné. La différence qu'il y a avec un autre projet, je veux dire, c'est que on va faire beaucoup plus de place à des espaces qui sont communs, que ce soit dans la maison ou que ce soit dans le terrain. C'est ça qui va changer un peu la forme. Mais au niveau de la forme juridique on est dans une construction d'un type de lotissement, donc quelque chose qui existe. Au lieu d'avoir des parcelles qui touchent des parcelles qui sont des parcelles privées à privées, ben on a des parcelles qui s'ouvrent sur un grand jardin collectif.
Sophie André, à l'instant, est architecte au sujet de ce projet d'habitat participatif sur les hauteurs de Saint-Hippolyte-du-Fort dans le Gard. Ils espèrent à long terme créer ensemble 30 à 35 logements. La ville de Bédarieux, dans les Hauts-Cantons héroletais, a un nouveau cinéma. Le Cinéstar avait fermé ses portes en juin 2013 et un peu plus d'un an après, eh bien, c'est le Ciné 3. C'est son nom. Il a ouvert mercredi soir ses portes grâce à la volonté de la municipalité qui a racheté les murs et réinvesti dans la rénovation des lieux. Il a fallu ensuite trouver des gérants. C'est chose faite avec Frédéric Perrault et Jérôme Carty qui s'occupent déjà de 4 autres salles indépendantes dans la région. Jérôme Carty, au micro de Radio Lodev.
Nous sommes très contents avec la mairie donc de rouvrir ce cinéma. Nous voulons proposer une programmation qui séduise tous les spectateurs. Nous avons pour but de mettre en place un cinéma de tous les cinémas, c'est-à-dire passer à la fois des films généralistes, donc des comédies populaires, des blockbusters, des dessins animés pour les enfants. Et ces films généralistes vont côtoyer des films d'auteurs que l'on dit « art et essai ». Tout ça agrémenté à chaque fois que des films s'y prêteront par des animations, des soirées débats, etc. Et puis, les 3 salles vont être équipées en numérique. Il y aura de la 3D. Il y aura, en plus des films, des spectacles qui seront proposés soit en live, soit en différé. Donc, spectacle, one-man show d'humoristes. Il y aura des opéras de temps en temps. Il y aura des concerts retransmis toujours en direct ou des pièces de théâtre. Bref, une programmation éclectique de façon à ce que tous les habitants de Bédarieux et des communes alentours puissent se sentir bien dans ce lieu de vie que va être le nouveau cinéma de Bédarieux.
Le nouveau cinéma de Bédarieux possède 3 salles, dont une grande de 146 places équipée en 3D. Le nouveau cinéma de Bédarieux, le Ciné 3, a ouvert ses portes mercredi dernier. C'était un sujet réalisé par Radio Lodev.
Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Ainsi s'achève ce premier carnet de région de la saison 2014-2015. L'actualité en Languedoc-Roussillon, un magazine collaboratif entre radios associatives. Merci beaucoup à vous de l'avoir écouté et rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, à bientôt.